Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, bienvenue pour nos émissions podcast que vous pouvez retrouver toutes les semaines sur l'ensemble de nos plateformes. Vous pouvez également retrouver de nouveaux numéros de Conflit dont le dossier est consacré au Sahel et puis sur notre site internet revueconflit.com, l'ensemble de nos dossiers. Vous le savez, Conflit ne vit que par ses lecteurs, lecteurs en kiosque, lecteurs en abonnement. Si vous aimez Conflit, faites-le connaître autour de vous, offrez des abonnements, c'est la meilleure manière de nous soutenir et de permettre à la revue de continuer à se développer. Nous partons cette semaine avec mes deux invités dans le sujet de la guerre cognitive. Nous allons essayer au cours de cette émission de définir cette notion de la guerre cognitive, de comprendre comment elle fonctionne, pourquoi elle est importante, comment elle est utilisée aujourd'hui. Mes deux invités, Didier Badelguet, ancien référent intelligence artificielle à l'agence Innovation Défense.
Ancien référent sciences humaines et sociales intelligence artificielle.
Très bien. Et Julie Achmirovitch, officier supérieur de l'armée de terre, spécialiste dans le domaine des technologies émergentes. Vous êtes passé notamment par Saint-Cyr, l'Académie militaire de Saint-Cyr, donc l'Institut Polytechnique, et vous êtes aussi vous avez été officier stagiaire à la promotion de l'école de guerre. Alors nous allons commencer par définir cette notion de guerre cognitive qui est de plus en plus présente. Qu'est-ce qu'on entend exactement, Julie Achmirovitch, par cette notion de guerre cognitive?
Bien. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Alors pour moi la guerre cognitive, et surtout selon une des références que je vais citer, qui est Ung et Ung, consiste à manipuler les stimuli environnementaux pour pouvoir contrôler les états mentaux et les comportements des autres. Cela va au-delà de la simple manipulation de l'information. La guerre cognitive exploite non seulement la supériorité de l'information, mais aussi les biais cognitifs des individus et le potentiel des interfaces homme-machine, ce qui élargit considérablement le champ d'action.
Donc pour préciser, parce qu'avant d'aller plus loin, on va bien préciser les termes, on a la guerre de l'information, c'est une chose, et la guerre cognitive, en est une. Comment vous distinguez guerre de l'information et guerre cognitive?
Guerre de l'information, on parle du contenu, majoritairement du contenu, des informations que l'on a envie de faire, des informations que l'on a envie de transmettre. Vraies, fausses, manipulées ou pas, ça c'est une question de fond sur les gens qui font la guerre de l'information. La guerre cognitive, c'est plutôt sur les moyens pour arriver à faire accepter l'information que l'on passe, orienter les comportements, mais non pas forcément sur sur des aspects pragmatiques sur le contenu de l'information, mais plutôt sur les moyens. Donc psychologie cognitive, psychologie sociale, action sur les valeurs ou des choses comme ça, mais pas véritablement sur le contenu lui-même.
Alors qu'est-ce qu'on va utiliser pour cette guerre cognitive? On pense spontanément aux réseaux sociaux, mais enfin...
Quand vous parlez réseaux sociaux, vous parlez des moyens, des médias, mais sur des aspects beaucoup plus fondamentaux, on va utiliser par exemple les biais cognitifs, qui sont quand même une sacrée puissance d'action sur la façon dont l'individu reçoit les informations et les capitalise à l'intérieur de sa pensée après.
Donc il y a la question des neurosciences, par exemple, ça rentre dans ce cadre-là?
La question des neurosciences rentre dans ce cadre-là, oui.
Et est-ce que, alors on en parle maintenant en 2024, mais est-ce que c'est un sujet qui est nouveau ou est-ce que ça fait peut-être quelque temps déjà qu'on le traite ou qu'on l'étudie?
Nouveau, quand on dit que c'est millénaire, les gens ont du mal à le croire. Ce qui est nouveau, c'est les vecteurs peut-être aujourd'hui, qui sont plus puissants, qui couvrent plus rapidement et plus largement les choses. Mais la partie exploitation des biais cognitifs est quelque chose qui est, je dirais, vieux comme le monde. Et des domaines non belliqueux s'en sont emparés. La publicité a travaillé dessus, les utilise, etc. etc. Pour prendre des exemples dans le passé, les marchands de tabac à une certaine époque utilisaient de la guerre cognitive pour arriver à faire rentrer dans l'esprit des gens que le tabac était quelque chose de non nocif.
Et aujourd'hui, on leur explique avec peut-être les mêmes éléments que c'est nocif.
On leur explique qu'avec les mêmes éléments que c'est nocif, mais peut-être aussi on a changé les moyens pour le faire. On a amené des campagnes publicitaires qui montrent les dégâts. Bon, on prend l'exemple du tabac, mais c'est pas le seul, hein, qui montrent les dégâts sur les poumons ou des choses comme ça. À une époque, on s'en tenait à des biais cognitifs où on faisait parler des experts, soi-disant indépendants, mais payés grassement par les mêmes fabricants de tabac, pour dire que c'était une bonne chose. Et là, par ce genre d'action, on sollicite par exemple un biais d'autorité.
Comment est-ce qu'on étudie la guerre cognitive dans le monde militaire en France, on va se concentrer sur le cas français, comment est-ce que cette notion est prise en compte par les mondes militaires en général?
Alors, déjà ce qu'on essaie de faire dans les armées, c'est regarder ce qui se fait ailleurs, et notamment s'intéresser à la littérature. Si on prend par exemple la littérature américaine et notamment la littérature militaire américaine, on a vu apparaître le terme très exact de guerre cognitive à la fin des années 90 dans des rapports de l'US Air Force où là il y avait une distinction qui était faite entre guerre de l'information et guerre cognitive dans l'écriture, mais où il était difficile en fait de bien comprendre cette distinction entre les deux. À ce moment-là, c'était pas très très clair. Les caractéristiques distinctives entre la guerre cognitive et la guerre de l'information sont en train de se dessiner maintenant, comme l'a dit Didier, avec les avancées en neurosciences. Maintenant, l'étude de la guerre cognitive dans les armées, ça va être beaucoup, beaucoup de lectures. Par exemple, étant donné que j'ai décidé d'utiliser ce sujet pour mon mémoire de l'école de guerre, en fait, j'ai notamment essayé de trouver un maximum d'informations dans la littérature, sur les bibliothèques en ligne.
Et est-ce que vous travaillez aussi avec des médecins, des psychologues, puisque vous évoquez les neurosciences par exemple?
À travers certains programmes de recherche qu'a lancé la DGA ou l'Agence d'innovation défense, on a travaillé avec des laboratoires de recherche. Les médecins, pas forcément, parce que par définition, la médecine soigne les gens et ne fait pas de la psychologie fondamentale, mais il y a des laboratoires qui participent à ce genre de recherche. Plutôt aller regarder aussi des laboratoires de psychologie sociale ou des choses comme ça, mais ça, c'est relativement rare parce que peu de laboratoires s'y intéressent. C'est pas un sujet porteur, c'est un sujet en plus qui dérange les universitaires parce que quelque part on titille un peu la psychologie de fond des gens et on voit derrière capacité d'influence ou des choses comme ça et ça ne plaît pas beaucoup aux universitaires. Mais il y a des vieux ouvrages. Il y en a un, par exemple, qui est connu et qui est remarquable et qui est facile à lire, qui est le vieux bouquin de Jules Beauvois, Petit traité de manipulation à l'égard des honnêtes gens. Là, il travaille sur le contenu, il travaille sur les mécanismes psychologiques, sans pour autant travailler sur des aspects, pas, je dis pas belliqueux, mais militaires. Voir comment on peut arriver à convaincre les gens, voir comment on peut arriver à leur faire prendre des décisions contre-intuitives. C'est des choses qui ont été bien montrées.
Et est-ce que, au cours des dernières guerres, vous avez des exemples où la guerre cognitive a été utilisée, parfois contre la France, mais est-ce que, enfin, c'est ça, notre question d'ailleurs, on va aborder la manière dont les armées françaises aussi utilisent ce genre de choses, mais est-ce qu'on a des exemples d'usage de guerre cognitive?
Je ne suis pas historien, donc
Alors, merci Didier, je ne suis
je
pas
suis ado,
historienne non
non.
plus. Alors, dire qu'on a des exemples de guerre cognitive, c'est difficile de dire oui parce qu'en fait, on n'a pas une définition claire et précise et unanime de la guerre cognitive. Maintenant, il y a des exemples où il y a des exemples, des signaux qui peuvent faire penser à l'utilisation de cette guerre cognitive. Je pense notamment à des groupes terroristes qui auraient pu utiliser certaines méthodes pour pouvoir en fait faciliter le recrutement par les réseaux sociaux et en utilisant certains moyens que pourrait utiliser la guerre cognitive.
Et comment est-ce qu'on peut s'en prémunir? Parce que étudier la guerre, c'est comprendre, mais c'est aussi, pour les armées françaises ou pour la France, se prémunir de ce genre de choses. Est-ce qu'on a une doctrine, il y a de contre-guerre cognitive?
Alors pour l'instant, il n'existe pas de doctrine de contre-guerre cognitive ni de doctrine de guerre cognitive. Je ne sais pas si le sujet est réfléchi en ces termes à l'heure actuelle. Ce qui est certain, c'est que des officiers comme moi ou des chercheurs comme Didier essayons de pousser la réflexion en ce sens. Pour faire en sorte que ce soit un sujet de réflexion par la suite.
Justement, dans vos recherches, qu'est-ce que vous avez pu élaborer ou
Non, je ne vais pas vous
développer?
parler de résultats, mais je vais juste vous dire que c'est faire des actions de guerre cognitive. Faut peut-être pas le voir comme on voit des systèmes d'armes actuels qui sont des choses très complexes, très riches, qui ont nécessité des années de recherche. On n'a pas l'équivalent en termes de guerre cognitive, on n'a pas eu de programme. Ça, vous avez beau chercher tous les programmes militaires, on n'a pas eu de programme parce qu'on n'a pas eu des vrais besoins, parce qu'on est en grande difficulté aujourd'hui. Les militaires, je pense, le reconnaissent et c'est un vrai problème, sont en grande difficulté pour spécifier que doit faire un programme de guerre cognitive, soit de manière réactive, soit pour être offensif si on décidait de l'être. Donc c'est quelque chose de très difficile, à la fois sous l'angle des spécifications, à la fois sous l'angle de l'ingénierie, comment spécifier, comment conduire un programme dans ce domaine, et la culture, qui est une culture qui est quand même... On va le dire en Europe et peut-être en Occident, en France, Europe, Occident, très orienté technologie. Et là, on est sur des méthodes d'action et des champs d'action qui sont loin de la technologie. Après, si on met de la technologie via du numérique, on peut, mais le point de départ n'est pas de dire on a des ordinateurs, on va faire. Non, c'est on a une vision, on a une façon de travailler, on aurait une façon d'agir, comment le numérique peut nous aider. Mais on n'en est pas à ce stade-là encore.
Donc ça veut dire que guerre cognitive et cyber, ce sont deux choses distinctes. Ou la guerre cognitive aussi peut utiliser le cyber.
La guerre cognitive peut utiliser le cyber, mais la ligne actuelle du cyber, c'est pas forcément aller sur ces relents de, enfin relents, sur ces concepts de base qui sont des concepts de psychologie, par exemple, ou de psychosocial, pour faire simple. Ils sont plutôt dans une logique de détecter de l'information, voire des menaces, mais au sens cyber, le numérique, oui, je pourrais presque dire le numérique regarde le numérique.
Dans la présentation que j'ai donnée, vous insistez sur l'aspect de sciences sociales, donc sciences sociales et intelligence artificielle. Pourquoi les sciences sociales, en quoi sont-elles importantes pour comprendre la guerre cognitive?
Ben, la guerre cognitive, soit vous partez sur une démarche d'action individuelle ciblée sur un individu, et là vous aurez une dimension psychologique pure, soit si vous voulez avoir un effet amplifié, et amplifiant d'ailleurs aussi en retour, via des réseaux sociaux, vous allez tomber sur une dimension sociale, puisque vous allez vous adresser à des groupes, avec des effets de groupe sur les biais cognitifs, l'adhésion au groupe, le rejet du groupe, les dissonances cognitives ou des choses comme ça, et vous allez avoir forcément besoin de regarder des notions de psychologie sociale. Mais c'est toujours l'éternelle difficulté. Les actions dans ce domaine-là, il y a deux options. Il y a deux options. Et moi, je ne peux pas trancher aujourd'hui sur ceux qui la pratiquent, de savoir dans quel mode ils sont. Soit on pourrait dire on est dans un système très large, très complexe, très organisé, soit on part sur plusieurs, sur un objectif final recherché, sur des effets, et on retrouve des gens qui agissent de manière pas forcément disparate sur les objectifs, mais de manière non coordonnée sur la façon de faire les choses.
Au sujet de cette guerre cognitive dans son emploi, est-ce qu'elle est utilisée à part ou est-ce qu'elle est utilisée en point d'appui d'autres types de guerres? Enfin, d'une guerre, on va dire, plus conventionnelle avec armement et avec envoi de troupes au sol ou aérienne ou maritime.
Je pense que La guerre cognitive fait partie en fait d'une guerre beaucoup beaucoup plus importante. C'est aussi un moyen d'atteindre un objectif ou stratégique qui aurait été fixé. Et autant dans certaines guerres, on va se concentrer sur l'utilisation de l'artillerie, des appuis aériens, autant la guerre cognitive pourra décupler en fait les effets létaux, par exemple, des armes.
Alors, on a évoqué le cas des sciences sociales, pour lequel l'intelligence artificielle, qui est aussi un facteur qui est en plein développement, en quoi ça rentre dans ce cadre-là de la guerre cognitive?
Alors, l'intelligence artificielle, moi, si on me disait j'ai tous les moyens à ma disposition pour faire de la guerre cognitive, je m'en servirais comme amplificateur, déjà. C'est-à-dire que, il y a des plateformes, sur ces plateformes, on peut faire intervenir des agents artificiels, les fameux chatbots, etc. Ce qui a pour effet de multiplier par 1 000, 10 000, 100 000, si on veut, des opinions en faisant croire aux gens. Le croit-il d'ailleurs, ça c'est une bonne question, mais en faisant croire aux gens que c'est des vrais gens derrière, alors que ce sont des programmes informatiques qui parlent et qui répètent en faisant de la paraphrase, de la périphrase, tout un tas de choses, et jouent sur un effet de masse. 10 000 personnes pensent que, 100 000 personnes disent que. Donc ça, c'est probablement un usage de techniques assez basiques d'intelligence artificielle qui a la portée technique de gens qui veulent s'en donner les moyens. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore identifié tous les usages que pouvait avoir l'intelligence artificielle, c'est-à-dire par exemple dans un discours ou justement dans une vision défensive. L'IA aujourd'hui, ou les gens qui ont travaillé là-dessus, ne sont pas capables d'identifier l'usage d'un biais cognitif qui permettrait de dire, oulala, on essaye de faire des biais d'autorité, des choses comme ça, donc on va faire des contre-mesures qui vont compenser les informations qui y arrivent. Je pense que l'analyse du texte, l'analyse du langage, la linguistique computationnelle qui est en train de se développer à grands pas. Au début, elle a commencé, la linguistique computationnelle a commencé pour identifier si les œuvres de Shakespeare avaient bien été écrites par Shakespeare, si certaines œuvres de Molière n'étaient pas des œuvres de Corneille, je crois, c'est ça, oui.
C'est ça,
Bon,
oui.
ça a été le début. Maintenant, ça permettra peut-être, si on le développe, de faire de l'attribution des éléments de langage à l'un ou à l'autre, de voir si c'est de la simple paraphrase ou pas, de voir s'il y a une créativité, si c'est simplement des chatbots qui répètent en remoulinant et en modifiant la marge. Donc je pense que dans les outils de détection, entre remonter sur les auteurs, tracer les faux auteurs dans le cas de chatbots, ou identifier ce qui pourrait être des recours à des biais cognitifs, seraient des choses qui pourraient être dans un futur relativement proche, si on s'en donne les moyens, des choses utilisables.
Alors, il y a le cas également de l'Afrique, notamment de l'Afrique subsaharienne. Ça a été un grand sujet de préoccupation pour la France, puisqu'on a vu plusieurs opérations de déstabilisation. Je me souviens notamment des massacres attribués à l'armée française alors qu'elle n'y était pour rien. C'était des troupes paramilitaires qui avaient orchestré ces massacres. Comment, dans ces cas-là, pour l'Afrique subsaharienne, est-ce que cette guerre cognitive représente une menace dans cette région?
Pour l'Afrique subsaharienne, la guerre cognitive est devenue une menace importante avec des acteurs étatiques et non étatiques qui exploitent en fait ces tactiques à des fins stratégiques. Pour autant, je ne suis pas sûre que l'ensemble des acteurs africains aient toujours conscience en fait d'être la cible de cette guerre cognitive et de faire partie en fait d'une manipulation à des fins de guerre cognitive. C'est notamment ce que j'ai pu voir et comprendre en fait quand j'ai pu faire des recherches par rapport à mon mémoire sur la désinformation en Afrique subsaharienne, où en fait il y avait une bonne partie des populations. Alors j'aime pas mettre tous les pays dans le même panier, mais en fait j'ai pu essayer de rechercher à la fois sur les pays de l'Afrique francophone et des pays d'Afrique anglophone, donc toujours Afrique subsaharienne, que d'une manière générale, il était très difficile pour eux de faire attention à ce type de menace. Pourquoi? Soit parce que en fait ils ont un accès limité à l'information, tout simplement de par les installations électriques et les réseaux auxquels ils ont accès. Parfois, ils n'ont pas accès à des réseaux mobiles, pas accès à Internet. Donc, en fait, ils ne récupèrent qu'une partie des informations auxquelles ils pourraient avoir accès et des informations qui sont peut-être parfois sélectionnées pour eux. Et aussi une partie éducative comme pour nous qui permet en fait de savoir d'essayer d'identifier ce que serait cette menace de la guerre cognitive.
Puis la question aussi pour l'Afrique ou ailleurs, mais le rapport entre exploitation d'un terreau fertile et manipulation. Est-ce qu'on peut, par la guerre cognitive, amener une personne qui pense rouge, l'amener complètement sur le vert, ou est-ce que c'est à partir d'un terreau fertile, on va l'amener à la conforter dans son opinion ou à la faire dériver vers l'opinion vers laquelle on veut l'amener?
Sur l'Afrique, Julie va me contredire si j'ai dit une bêtise, mais sur l'Afrique, il y a eu un exemple qui a quand même, semble-t-il, si je vends à partir de certains papiers, qui a pas mal agi contre nous. C'est le fameux dessin animé où poussé par Wagner,
Oui, Wagner a fait beaucoup de films pour ça
qui
d'ailleurs.
était qui était vilain sur le plan cinématographique, éditorial ou je sais pas quoi, mais qui était probablement
Très efficace.
efficace chez des gens qui, comme disait Julie, n'ont pas accès, et là encore, n'ont pas accès à un esprit critique, soit par leur formation, soit par leur situation, soit par les moyens auxquels ils ont accès. Nous, on a accès à toutes les bibliothèques qu'on veut, on a accès à tous les journaux qu'on veut. Je ne suis pas sûr que dans tous les gens visés par ça, c'était pas l'idée, c'était pas d'avoir des intellectuels qui réagissaient à, c'était d'attaquer les gens qui verraient ça et que ça. Et ça me suffisait peut-être dans certains cas, hein, même si c'était faux. Toujours l'éternelle question. À force d'entendre un mensonge, moi, je me suis toujours demandé si on finissait pas par dire, mais bon, c'est toujours pareil, on débouche sur la théorie du complot, mais à force de l'entendre, on se dit, bah, peut-être c'est vrai aussi.
On a beaucoup suivi effectivement à conflit les comptes Telegram de Wagner et ces vidéos étaient très efficaces, pas bien faites mais très efficaces. On voyait les Français représentés comme des orques, des gens
Oui,
très, très horribles. Et
elles
puis
étaient moches, mais très
voilà, c'est
efficaces,
ça.
hein.
Et puis les Russes qui arrivaient, qui
Qui sauvait le
portaient la paix,
monde.
la prospérité, enfin les Russes, population de Wagner, et des vidéos qui étaient directement inspirées des mangas japonaises dans l'esthétique des dessins et la manière dont les films étaient faits.
Esthétique, oui, c'était vraiment sous les mangas, parce que c'était vraiment très,
Mais
très simpliste. Et
c'était
puis,
efficace.
je pense que ça a pu être efficace sur certaines populations.
Effectivement, adapter le vecteur à la population ou au type de personnes qu'on veut cibler, c'est vraiment un des enjeux de la guerre cognitive. Je voudrais juste souligner une chose, c'est que autant dans certaines contrées, alors on ne parle pas forcément que de l'Afrique subsaharienne, l'accès à l'information est limité, autant dans nos pays, par exemple comme en France, l'accès à l'information de masse ne fait pas en sorte que la menace soit moins importante, justement. Il y a beaucoup plus d'informations, de là à réussir à trier celle qui va nous être utile, celle qui va être vraie et celle finalement qui va servir à terme à de la manipulation, là aussi c'est un enjeu.
Et pour rester sur le cas français, on a beaucoup discuté dans les années 2000-2010, il fallait créer une quatrième armée qui serait l'armée cyber. D'ailleurs, en Israël, à une époque, ils avaient créé une armée cyber distincte de l'armée de terre, l'armée de la marine et puis l'armée de l'air. Est-ce que c'est un élément qui sera en discussion aussi de créer une armée guerre cognitive, ou est-ce que ce sont chacune des armes qui prennent conscience de cette guerre cognitive et qui l'intègrent dans leur réflexion tactique et stratégique?
Alors moi je dirais tout simplement que en fait il n'y a pas eu de quatrième armée cyber. Pourquoi? Parce que c'est un domaine transverse qui concerne en fait toutes les armées. Et je pense qu'il en est de même pour le cognitif.
Quelles sont les évolutions possibles que vous voyez? On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Alors, on subodore ce que ça peut apporter, mais ça pourrait apporter, enfin on verra dans les années qui viendront, mais en tout cas on voit qu'il y a des potentiels. En termes de guerre cognitive, quelle serait, alors c'est toujours vraiment compliqué de faire des prévisions, mais enfin on peut au moins émettre des hypothèses dans les années qui viennent, quelles pourraient être les grandes tendances ou les éléments sur lesquels les armées doivent être vigilante de manière à pouvoir anticiper les menaces?
Je crois qu'il y a des domaines qu'on peut déjà naturellement exclure, hein, parce que logistiquement impossible, même si ça fait rêver des romans de science-fiction, même si ça fait rêver des cartoons ou des dystopies, c'est tout ce qui est action sur des mécanismes profonds du cerveau par des ondes de bidule, par des molécules de choses, etc. etc.
C'est pas Blake et Mortimer.
Oui, SOS Météor, ça marche très bien. Y a tout dans SOS Météor. Il y a aussi la marque jaune qui a un travail sur le... Bon, ça, je pense qu'on peut l'exclure. Hein. Pour un bête, je ne dis pas un problème scientifique, mais je dirais aussi pour un bête problème logistique. Quand on voit comment en France, il a été difficile d'organiser la distribution de masques pendant le Covid, j'imagine la logistique qui devrait se faire en sous-main pour distribuer les pilules bidules. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ces choses-là, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas les craindre en disant « Mon Dieu, on va un jour être drogué à notre insu ». Bon, non, là-dessus, je pense qu'il ne peut rien se passer. Le renforcement de l'intelligence artificielle pourrait permettre beaucoup mieux. De toute façon, certains partis de politique le font, notamment aux États-Unis pour les élections. Le micro-ciblage, le micro-marketing, c'est quand même des choses qui sont quand même très puissantes et qui pourraient, à partir de connaissances que l'on a sur vous, sur moi, à travers ce que l'on lit via des réseaux sociaux, des requêtes Google ou des choses comme ça, permettraient de mieux cibler de manière individuelle les gens. Aujourd'hui, ce n'est pas dans les lignes probablement... Des forces armées là-dessus, mais je pense que il y a peut-être des pays qui s'y intéressent, il y a peut-être des actions futures qui pourraient arriver là-dessus, mais du moment où le monde politique s'y intéresse au micro-ciblage pour les élections américaines,
on fait aussi en France, le monde politique français fait aussi du micro-ciblage, il y a des logiciels très performants dans le domaine.
Le problème du micro-ciblage, c'est qu'il faut avoir les données qui permettent de cibler efficacement. Et les données qui ciblent efficacement, en France, à la plateforme Google, on n'a pas les requêtes. Les réseaux sociaux, on n'a pas les flux. Ça nous pose des problèmes, si on voulait le faire vraiment. Ou alors, on les a en les achetant pirates.
Fort cher.
Fort cher.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de la guerre cognitive. Une très bonne introduction à ce sujet qu'on va évidemment continuer de suivre à conflit parce que c'est un sujet important et cela rentre dans le cadre général des guerres et des conflits. Merci pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.